Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Love, tous les vendredis soirs, 20h, 21h sur les ondes de CFAC, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Et évidemment, Wissam Bensta avec vous pour la prochaine heure. Donc écoutez tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a énormément encore beaucoup de nouvelles concernant le monde du soccer, le monde du foot. Évidemment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. On est rendu au quart de finale avec des belles et des moins belles surprises. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de l'incident Belmadi, qui est l'entraîneur de l'Algérie avec un journaliste camerounais. Puis ça va nous amener un peu à quelque part d'autre, à un autre endroit, vous allez voir ça. On va vous parler des matchs internationaux parce qu'on est en plein dedans dans les qualifications pour la Coupe du Monde, etc., etc. Cette semaine, la ligue qui sera abordée sera la Liga Española. On va en parler parce qu'évidemment, il n'y a pas de match dans la Ligue Espagnole, tout simplement dû au fait qu'il y a les matchs internationaux. Et on va parler également des matchs à venir avec un peu de transfert à gauche et à droite. Mais pour commencer, bien sûr, on va commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout de suite à Soccer Love.
On va jouer.
Donc, pour débuter, on a eu Burkina Faso-Gabon. Ça a été un match où est-ce que le Burkina Faso a gagné tout le match, c'est-à-dire ils ont marqué à la 28e minute avec Bertrand Traoré, qui est le joueur vedette de cette équipe. Mais le Gabon avait égalisé à la 91e minute. Mais finalement, le Burkina Faso a gagné au tir au but 7-6. Donc, il y a énormément de tireurs. Il faut dire qu'en Coupe d'Afrique des Nations, les pénaltys dans les séances de tir au but sont généralement bien tirés. On a plusieurs séances de tir au but avec beaucoup de tireurs. Ensuite, on a eu la première grosse surprise de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire que le Nigeria qui avait gagné ses trois matchs en phase de groupe, qui avait battu l'Égypte, qui était en feu, qui jouait un peu près de leur maison, parce qu'on sait, le Nigeria et Cameroun, géographiquement, c'est pas très loin. Donc, ils étaient quand même très près de leur pays. Eh bien, c'est Youssef M'Sakni qui a marqué à la 47e minute sur une belle frappe de loin que le gardien aurait pu arrêter, mais la frappe était très sèche. Et la Tunisie l'emporte 1-0 contre le Nigeria. Le Nigeria, d'ailleurs, qui a joué à 10 avec un carton rouge de l'ancien joueur d'Arsenal, Alex Iwobi. Donc, une très grosse déception pour le Nigeria. Et la Tunisie, qui avait terminé 3e de son groupe, qui avait perdu contre la Gambie, qui avait perdu contre le Mali et qui avait battu la Mauritanie, se retrouve en quart de finale contre le Burkina Faso. Ensuite, la Gambie a battu la Guinée 1-0 avec un but de Moussa Barrow. Moussa Barrow, qui est un joueur de la Gambie, né en Gambie évidemment, et qui joue du côté de Bologne en Italie. Donc, c'est vraiment la grosse vedette de la Gambie et il a marqué le but. Donc, voilà pour notre ami Moussa Barrow et la Gambie. Également, le Cameroun. Ça, c'est le match intéressant. Le Cameroun, qui est l'équipe invaincue, évidemment. Il y en a d'autres, là, mais l'équipe est invaincue. Ils ont battu 2-1 les Comores. Dans ce match-là, Vincent Aboubakar, un but, une passe. C'est le joueur du tournoi à date. Mais par contre, les Comores n'avaient pas de gardien de but. Ils avaient une éclosion de COVID. Donc, pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, ils se qualifient en huitième de finale, et il marque le but du tournoi avec Mchangama qui a marqué un coup franc, mais de loin, une frappe incroyable. Mais malgré ça, les Comores se sont fait éliminer, mais c'est l'équipe du tournoi. Peu importe qui gagne le tournoi, les Comores, cette petite île hein, en Afrique, dans l'océan Indien, si je ne me trompe pas, c'est pas très loin de Madagascar, cette petite équipe qui a quand même tenu tête au Cameroun, parce qu'il faut se rappeler qu'ils jouaient à 10. Ils ont un carton rouge à la 7e minute. Et malgré ça, ils ont eu des occasions. Donc, belle équipe de Comores. Donc, félicitations à eux. Sénégal-Cap-Vert, 2-0 pour le Sénégal. Sadio Mané avait eu un choc à la tête. Mais bon, évidemment, ça va bien aller. Donc, on espère le revoir pour leur prochain match. Cap-Vert qui a fait un bon tournoi. Mais le Sénégal qui l'emporte sans surprise à la 63e avec un but de Mané. Et Dieng à la 93e. Maroc-Malawi, Hakimi a marqué un très beau coup franc, et En-Nesyri aussi, donc les deux joueurs nés, en fait les deux joueurs qui ont joué en Espagne plutôt, parce que En-Nesyri lui a joué au Maroc. Et du côté du Malawi, Mango avait marqué à la 7e minute, mais le Maroc l'emporte. Côte d'Ivoire-Égypte 0-0, l'Égypte l'emporte au tir au but. Mali-Guinée équatoriale, ça c'est une autre grosse surprise, Guinée équatoriale l'emporte au tir au but après un match de 0-0 avec un dernier pénalty tiré du Mali là, de Sakou qui était vraiment mal tiré. C'est-à-dire que si le gardien allait du bon côté, c'était automatiquement un arrêt. Il n'y avait aucun angle, aucune force. C'était un pénalty très mal tiré. Côté des quarts de finale, qu'est-ce qu'on a? Le 29 janvier, donc c'est-à-dire demain, on a Cameroun-Gambie. Le 29 janvier, c'est-à-dire demain, on a Burkina Faso-Tunisie. On a un match très chaud le 30, donc dimanche, Égypte-Maroc. Ça, c'est le quart de finale chaud. Et ensuite, on a Sénégal contre la Guinée équatoriale. Voilà. Donc, ensuite, pour vous donner les demi-finales de qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire que le gagnant du match Cameroun-Gambie va jouer contre le gagnant du match Égypte-Maroc. Et le gagnant de Burkina Faso-Tunisie va jouer contre le gagnant de Sénégal-Guinée équatoriale. Et là, maintenant, tous les matchs ou presque se jouent du côté de Yaoundé, incluant la finale, bien sûr, sauf le match de la Tunisie qui va se jouer, Tunisie-Burkina Faso qui va se jouer du côté de Garoua. Fait intéressant, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé quand même assez cocasse, c'est que durant le match Tunisie-Nigéria, l'arbitre vidéo, c'était Fernando Guerrero, un Mexicain. Donc, je sais pas, on dirait que c'est à la mode maintenant d'avoir des arbitres d'une autre confédération en Afrique et dans d'autres continents aussi, j'ai déjà vu ça. Pourtant, en Argentine, au Mexique, en Europe, nous allons jamais voir un arbitre vidéo africain. Mais du côté de l'Afrique, on dirait qu'on doit toujours amener des arbitres provenant d'un autre continent, alors qu'il y a évidemment la qualité en Afrique pour le faire. Donc, je ne comprends pas pourquoi la Confédération africaine n'est pas capable d'avoir des arbitres tout simplement africains. Parce que ce qui est juste, il faut que ça soit juste des deux côtés. En Amérique latine, tout le continent américain, l'Europe, il n'y a jamais d'arbitre africain. Mais, côté de Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des arbitres, non seulement vidéo, mais il y a eu des matchs où est-ce que l'arbitre était un Mexicain. Alors que je peux vous garantir qu'en Afrique, il ne manque pas d'arbitres. Donc moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle. J'essaie de vous trouver ça. Là, l'arbitre, il y a eu un match parce que c'était un arbitre mexicain. Bon, ben là, évidemment que je le dis, je ne suis pas capable de le trouver, là, mais c'est bel et bien arrivé. C'est ça, M. Guerrero a fait quelques matchs. En tout cas, oui, c'est ça. C'est le match Gambie-Tunisie arbitré par le Mexicain Fernando Guerrero, qui est un bon arbitre, là. J'ai aucun problème avec ça. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, on prend des arbitres de d'autres confédérations et que les autres confédérations ne prennent jamais d'arbitres africains? C'est pas juste. C'est injuste et moi, je suis contre ça. Right? Il n'y a pas de problème si un arbitre mexicain, hongrois, polonais, grec, chinois qui arbitre des matchs en Afrique, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait que dans les autres confédérations, qu'on invite des arbitres africains aussi pour arbitrer, pour que ce soit juste, mesdames et messieurs. Donc voilà, et pour la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, Vincent Aboubakar, 6 buts. Après ça, c'est 3 buts pour Kal Toko et Kambi du Cameroun, les deux du Cameroun. Mango du Malawi, 3 buts. Et Ibrahima Kone, 3 buts. Sinon, on a 2 buts pour Kazri, Mané, Moussa Baro, Nicolas Pepe, qui est déjà rentré à la maison parce que l'Égypte l'a éliminé. Donc voilà, on s'en va en musique maintenant avec une bonne chanson de dance des années 90. Get to the Rhythm. Vous écoutez Soccer Love. On se revoit après ceci.
Now that you know how to spell DJ, you're gonna learn how to make love.
And if you feel the need to make love till the end of the night, and if you wanna make love till you see the morning light, it's the rhythm of my life. We'll be right back.
the rhythm. We got the rhythm. We got the rhythm. We got the rhythm.
Donc, c'était l'excellente chanson Rhythm of Love de DJ Company, un classique danse des années 90. D'ailleurs, comme vous le savez, tous les samedis soirs, 20h30, 22h, c'est FAC 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. On a l'émission EDM Sherbrooke, dans laquelle il y a énormément de dance des années 90, parce que j'aime bien cette musique-là, et j'ai toujours trouvé que c'était une musique qui était sous-représentée, que ce soit dans les médias, dans la radio, les radios commerciales, et même dans les radios émergentes et tout ça. Donc j'ai décidé de proposer ce projet-là, et bien merci à l'équipe CFAC, je l'ai depuis déjà quelques semaines, donc samedi soir 20h30, 22h sur cette même radio. Donc écoutez, maintenant on va parler d'un moment très triste, très sombre de l'histoire du football, et quelque chose qui a été repris de manière totalement inacceptable. On va écouter un audio. Cet audio, c'est l'entraîneur d'équipe de l'équipe nationale d'Algérie, Jamel Belmadi, qui reçoit une question d'un journaliste camerounais, le tout évidemment après une défaite de 3-1 contre la Côte d'Ivoire lors du dernier match de l'équipe d'Algérie et de Côte d'Ivoire du groupe, qui fait en sorte que l'Algérie termine dernière du groupe, alors qu'elle devait probablement terminer première ou deuxième. Donc, c'était une énorme surprise. On écoute ça et on revient, on va analyser ça à Soccer Love ensemble.
Coach, vous parlez justement...
Nom et média, s'il vous plaît, monsieur.
Jacques-Marcel Itiga, je travaille pour Canal 2 International. Vous parlez de l'irrationnel. Alors, ça veut dire que vous-même vous peinez à trouver des explications pour cette élimination. Alors, nous, on va aller tout droit. Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'Albert Ibossé qui a hanté les Fenech pendant toute cette CAN?
C'est la conférence de presse après match Algérie-Côte d'Ivoire. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question.
Je ne sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle.
Donc, c'était un échange entre un journaliste camerounais et Jamel Belmadi. Je tiens à dire, évidemment, que c'est des sujets délicats, qu'il faut comprendre la souffrance des gens quand on l'aborde, et aussi qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, avant, la chose la plus importante à faire, c'est de parler de Albert Domingue Ebossé Bodjongo Dika. Il était, vous avez bien compris, il était camerounais. Il est né le 6 octobre 1989 et il est décédé le 23 août 2014, à 24 ans. Et donc, ce qui s'est passé, le 23 août 2014, à l'occasion de la deuxième journée du championnat algérien, la JS Kabylie, qu'on appelle JSK, s'incline 2-1 face à l'Ousma Alger, qui est une équipe de la capitale, malgré un but d'Albert Ebossé sur pénalty à la 27e minute. À l'issue du match, alors qu'il s'apprête à rentrer au vestiaire, Albert Ebossé aurait reçu sur la tête une pierre lancée des tribunes par les supporters furieux de la JS Kabylie et meurt à l'hôpital des suites d'un traumatisme crânien. Le jour même, le ministre intérieur Tayeb Belaïs demande l'ouverture d'une enquête. Par conséquent, la Ligue de football professionnel ordonne la fermeture du stade du 1er novembre jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est un stade, évidemment, de la ville de Tizi Ouzou, qui est une ville de la Kabylie en Algérie. Le lendemain, la fédération reporte les matchs prévus le 29-30 août 2014 pour rendre hommage au joueur Albert Ebossé, qui est décédé, évidemment, tragiquement, et protester contre l'agissement irresponsable de certains énergumènes et hooligans qui entretiennent la violence dans les stades et qui atteint des proportions, inacceptables. Par ailleurs, le club s'engage à verser une indemnité de 100 000 $ et le salaire du joueur à la famille Ebossé. Le 13 décembre 2014, lors d'une conférence de presse au Cameroun, des membres de la famille Ebossé déclarent qu'aucune indemnisation n'a été perçue. Finalement, ils l'ont reçu là, quelques années plus tard, et que de plus, il ne s'agirait pas d'un accident, mais d'un homicide. Évidemment, il y a une controverse sur la mort. C'est un sujet délicat. Moi, je n'y étais pas. Il y a des vidéos sur YouTube qui circulent où est-ce qu'on voit un policier s'approcher de Monsieur Ebossé, Monsieur Albert Ebossé. Et certains disent que c'est une bavure policière, d'autres disent que c'est la pierre, d'autres disent que c'est une crise cardiaque. Donc, il y a plusieurs pistes. Mais évidemment, la piste la plus probable, c'est qu'un voyou, évidemment, a causé la mort de ce joueur, qui était d'ailleurs promu à un très bon futur, parce que si on regarde ses statistiques, il était âgé de 24 ans. Il avait déjà joué 7 matchs avec le Cameroun U20. Il avait marqué 2 buts. Il avait joué avec le Douala AC. Il avait marqué 9 buts en 10 matchs. Ensuite, il avait joué en Malaisie avec Perak FA. 11 buts en 16 matchs. Et avec la JS Kabylie, il avait marqué 23 buts en 44 matchs, ce qui n'est pas facile parce que généralement, les championnats, beaucoup de championnats, notamment les championnats nord-africains, c'est difficile d'avoir la statistique de 1 but à tous les deux matchs. Et lui, il avait fait plus que ça. Il avait 23 buts en 44 matchs. Voilà. Et ensuite, en février 2016, Hugo Brousse, l'entraîneur belge, qui était entraîneur au moment où ça s'est passé, il était entraîneur de l'équipe d'Ebossé. Il a déclaré que le joueur a été assassiné par les supporters de la JSK. Donc tout ça, ça m'amène évidemment nos condoléances à M. Ebossé. Et là, ça nous amène à l'incident qu'il y a eu entre le journaliste qui a dit en fait que l'Algérie a perdu. Il y a eu une compétition catastrophique et pathétique. Et que c'est en quelque sorte le retour de la monnaie de l'esprit du défunt Albert Ebossé. Pour qu'est-ce que certains voyous ont fait? Donc évidemment, c'est une accusation énorme. C'est très déplacé de la part du journaliste pour la simple et bonne raison que déjà, ça n'a absolument rien à voir avec l'équipe nationale d'Algérie. Les Algériens ont pleuré la mort d'Ebossé. Et probablement que peut-être même les voyous, je ne sais pas, je n'en suis pas certain, ceux qui ont fait ça. Les joueurs algériens qui jouent avec l'équipe nationale maintenant, 90% d'eux n'ont jamais joué en Algérie déjà de un. Et de deux, très probablement aucun n'a joué avec ou contre M. Ebossé. Donc c'est une accusation de très bon niveau de la part du journaliste camerounais. C'est pour ça d'ailleurs que la personne responsable de la conférence de presse a rappelé que c'était la conférence de presse de Algérie, Côte d'Ivoire. Right? Ils ont rappelé ça, là. Parce que le journaliste a fait une erreur. En même temps, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés aussi de ce qui s'est passé, parce que c'était déjà, même si c'était que ce soit le meilleur joueur ou le pire joueur, c'est pas important, mais c'était un joueur camerounais qui jouait dans un championnat étranger. Et ce championnat étranger n'a pas été capable d'assurer la sécurité de ce joueur. Donc, c'est une tragédie catastrophique. Mais c'est catastrophique, évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à donner quelques secondes de silence pour la famille de M. Ebossé et pour M. Ebossé lui-même, qu'il repose en paix. Donc, voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on a parlé de ce sujet-là, on a eu les tirages pour la Coupe du Monde 2022, les qualifications pour la zone Afrique. Ils ont fait ça avant le premier match des huitièmes de finale, soit samedi dernier. Voici les tirages. Maroc, République démocratique du Congo. Égypte, Sénégal. Oui, Sadio Mané contre Mohamed Salah. Tunisie contre le Mali. Nigeria, Ghana, un derby de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Et vous savez quel est le dernier match, chers auditeurs, chères auditrices? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Algérie, Cameroun. Je répète, Algérie, Cameroun. Ça va être très chaud. Très, très chaud. Parce qu'on a senti dès le début, et moi, honnêtement, je vous le promets, je suis neutre dans mes affirmations ici, là. L'Algérie, il y a une surmédiatisation partout. Europe, Afrique. On n'a pas arrêté de les monter, de les monter, de les monter, de les scruter à la loupe. Et finalement, ils ont connu une Coupe d'Afrique des Nations catastrophique. Et les Algériens, eux, évidemment, se sont plaints, comme toutes les équipes, en fait, se sont plaints un peu de la chaleur, de la qualité des terrains, tout ça. Donc, il y a une tension énorme entre l'équipe nationale d'Algérie et l'équipe nationale du Cameroun. C'est pas une tension directe entre les joueurs ou entre les personnes eux-mêmes, mais on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, si je peux m'exprimer comme ça. Et là, on va avoir un match aller au Cameroun et un match retour en Algérie. Et une de ces deux équipes-là va rater la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est tout simplement incroyable que ces deux équipes-là s'affrontent. On aurait également pu avoir un tirage Algérie-Égypte. Si vous me demandez mon avis à moi, là, les deux plus gros clashs qu'on aurait pu avoir, c'est l'Algérie contre l'Égypte ou l'Algérie contre le Cameroun. Parce qu'évidemment, ils étaient divisés en deux groupes. Là, je l'ai expliqué la semaine dernière. On avait d'un côté Sénégal, Tunisie, Algérie, Maroc Nigeria. De l'autre côté, on avait Ghana, Congo, on avait l'Égypte, on avait le Congo et le Mali. En fait, j'ai nommé Congo deux fois. Là. Il y a une équipe que j'ai oubliée. Et le Cameroun, évidemment. Voilà. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, Algérie et Égypte, ça aurait pu être, là je m'étale là, mais Algérie et Égypte, ça aurait pu être un très gros match, parce que vous savez qu'il y a une très grosse rivalité en Afrique entre ces deux pays-là, et c'est pas simplement dû au foot, ça l'a commencé par là, évidemment, mais autant dans le temps où est-ce que l'Algérie avait eu son indépendance, ils avaient joué avec une équipe qui s'appelle, un peu avant l'indépendance d'ailleurs, avec leur équipe nationale qui était le Front de Libération Nationale, beaucoup d'équipes... n'avait pas suivi le boycott demandé, je crois, par la France. Je suis pas sûr là, de qu'est-ce que j'affirme, mais je crois qu'il y avait un boycott où on demandait à beaucoup de pays de ne pas jouer contre cette équipe-là du Front de Libération Nationale, et beaucoup ne l'ont pas respecté, évidemment, pour être solidaire avec le processus d'indépendance de l'Algérie. Sauf que l'Égypte, eux, ont accepté et ont refusé de jouer des matchs contre l'Algérie. Donc voilà, c'est une petite tranchoir. On pourrait en parler d'ailleurs. On est beaucoup dans l'Afrique aujourd'hui, d'ailleurs, hein, à cette émission-là. C'est parfait comme ça. Quelle autre émission vous allez trouver, d'ailleurs, où est-ce que vous entendez quelqu'un parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du soccer africain dans un rayon de 500 km de Sherbrooke. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mesdames et messieurs. Donc voilà. S'il n'y en a sûrement pas au Vermont et New Hampshire, ça c'est garanti ou argent remis. Donc voilà. Écoutez, c'était pas mal ça pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on va aller en musique avec Amé Laouni et la chanson Un fil. J'adore cette chanson, j'adore cet artiste, j'adore sa musique. Vous écoutez Soccer Love, bonne écoute.
Mon hiver fragile, la voix qui tient sur un fois, je ne l'écoutais pas trop.
Je suis là, je suis encore là. L'image devient plus claire. Le néant se replie. Je vois la sortie.
Donc, c'était l'excellente chanson « Un fil » de Amé Laouni, évidemment une très bonne artiste québécoise qu'on aime à CFAQ. Honnêtement, je pense que c'est l'artiste québécoise que j'ai mis le plus souvent à l'émission avec peut-être DJ Empire, mais DJ Empire, ça c'est parce que c'est un des rares où est-ce que j'avais des nouveautés francophones pour l'émission EDM Sherbrooke. Donc voilà, maintenant, écoutez, je veux un petit segment spécial. J'ai regardé un documentaire cette semaine, je ne vais pas vous dire c'était sur qui. Un excellent documentaire sur un joueur italien qui a gagné le Ballon d'Or, évidemment. Donc, vous pouvez évidemment sans doute penser de qui, sans doute savoir de qui je parle. Donc, ça m'a poussé l'idée à... Ça m'a amené l'idée de tout simplement vous donner mon top 3 des tirs de pénalty, donc des pénaltys les plus ratés, les plus marquants, qui m'ont le plus marqué comme fan de soccer. Je voulais vous donner un top 3, mais il y en a un que je ne suis pas capable d'enlever, évidemment, et c'est nul autre que David Trezeguet. Donc, David Trezeguet, je vais le mettre quatrième. Pourquoi? Parce qu'évidemment, David Trezeguet, c'est le seul qui a raté la séance de tir au but en 2006, France-Italie, avec une équipe de France qui avait tout pour gagner contre cette équipe italienne-là, qui était très bonne d'ailleurs, avec un Zidane qui était en feu. Zidane, qui était presque, qui a presque marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde si sa tête n'était pas sortie par Buffon avec un arrêt miraculeux. Zidane aurait peut-être été considéré comme le meilleur joueur de tous les temps s'il avait gagné cette Coupe du Monde-là, encore une fois, à lui seul. Quoi qu'en 98, c'était pas à lui seul, là, mais en 2006, là, Zidane, c'était... tout simplement « the best of the best ». Right? Mais malheureusement, il n'en est rien parce qu'il a donné un coup de tête à Materazzi, un carton rouge, et donc il y a une séance de tir au but, France-Italie, et tout le monde a mis le pénalty, sauf David Trezeguet qui l'a frappé tellement fort sur la barre transversale qu'elle est retombée, mais elle n'avait pas traversé la ligne, donc c'est le seul qui a raté le tir de pénalty. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en 2000, c'est lui qui avait marqué le but qui avait donné la victoire de la France contre l'Italie à l'Euro 2000, et lui qui était une légende de la Juventus, right, qui a passé la plus grande partie de sa carrière en Italie. Donc maintenant, ça c'est pour notre ami Trezeguet. Maintenant, mon top 3, je vous le donne à l'instant après ce petit jingle que j'ai pour vous. Donc, mon numéro 3, je vous le donne, mais avant de vous le donner, je vous explique comment j'ai choisi. Donc, tout d'abord, c'est pas tout simplement rater un pénalty, c'est pas ça. C'est également le joueur, c'est également le contexte, c'est également à quel niveau ça s'est passé. Et généralement, je suis tenté de prendre des joueurs qui ont raté des pénaltys pour leur pays, sauf lui, sauf le numéro 3. Le numéro 3, c'est John Terry. Parce que John Terry était le visage emblématique de Chelsea. Right? En 2008, finale de Ligue des Champions, leur première pour Chelsea contre Manchester United. Ça faisait déjà des années que Chelsea avait eu énormément d'argent avec leur propriétaire russe, Abramovich, qui avait amené beaucoup d'argent et qui avait fait signer beaucoup de joueurs, Drogba, Lampard... Il y en a plein, là, il y en a plein, Bozingua, Anelka, tout ça, là. Ashley Cole, etc., etc., etc. Et durant cette séance de tir au but-là, c'est pas seulement John Terry qui a raté le penalty, c'est qui l'a raté avant lui. C'est-à-dire que John Terry était le cinquième tireur et dernier des deux équipes. S'il marquait, Chelsea gagnait sa première Ligue des Champions. Et on sait que pour gagner une Ligue des Champions, c'est pas facile. Barcelone, Real Madrid, oui, l'ont gagné très souvent, d'accord, c'est des grands clubs. Mais à part eux, vous regardez même le Bayern Munich, ils l'ont pas gagné souvent là, dans les 20 dernières années. Ils l'ont gagné quelques fois, mais c'est pas une compétition que tu peux gagner 5 fois dans une décennie. Là. Sauf si tu t'appelles le Real Madrid. C'est très difficile à gagner. Et donc, tous les joueurs de Manchester United avaient marqué, tous les joueurs de Chelsea avaient marqué avant le penalty de John Terry, sauf un certain Cristiano Ronaldo de Portugal, qui à l'époque n'avait bien sûr jamais gagné une Ligue des Champions, qui à l'époque était un très bon joueur, mais qui n'était pas évidemment le grand Ronaldo qu'on connaît aujourd'hui. Et Ronaldo était le seul qui avait raté son tir de pénalité contre, évidemment, Petr Cech, qui l'avait arrêté, le gardien de la République tchèque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que John Terry arrive, cinquième tireur, c'était une soirée, ça se passait à Moscou. En plus, pour ajouter tout ça à la soirée légendaire, ça se passait dans la capitale du pays, du propriétaire de Chelsea. John Terry tire le penalty, il glisse, et pour rendre encore plus spectaculaire ce raté, ça touche le poteau. Et donc, après ça, certains joueurs marquent, dont Nani, etc. et compagnie. Anderson. Et après ça, Anelka rate. Donc, John Terry, qui en plus de tout le contexte spectaculaire de ce raté-là, était le seul joueur formé au club. Parce que Chelsea achetait des joueurs internationaux partout, mais lui, c'était le seul joueur formé à Chelsea. Et c'est lui qui rate. Et en plus, t'as le capitaine. Donc, capitaine, joueur formé à Chelsea, ça se passe à Moscou, dans la ville du pays du propriétaire qui a amené plein d'argent. C'est leur première finale. Et en plus, qui avait raté avant, c'était Ronaldo. Si Ronaldo fait perdre l'équipe, entre guillemets, fait perdre, là, parce que c'est lui qui avait marqué là, le but dans le match. Si Ronaldo, à cause du penalty raté de Ronaldo, Chelsea gagne la Ligue des Champions et Manchester United la perd, Ronaldo aurait sans doute connu une très grande carrière parce que c'est un crack qui s'entraîne, etc., etc. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que ça l'aurait traumatisé. Peut-être que il n'aurait pas connu la grande carrière. Peut-être que les fans de Manchester lui auraient jamais pardonné. Donc voilà, ça c'était mon numéro 3. Numéro 2, Asamoah Gyan. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. C'est l'équipe africaine qui s'est rendue le plus loin en Coupe du Monde en quart de finale. Vous me direz, oui, il y a le Cameroun et le Sénégal, mais ils n'ont pas été au pénalty, ces équipes-là. Le Ghana était au pénalty contre l'Uruguay en 2010 et en plus, ça se passait en Afrique et c'était la première fois qu'une équipe africaine pouvait aller en demi-finale. Pénalty, dernière minute du jeu dans le temps réglementaire parce que Luis Suarez a arrêté le ballon de la main. L'arbitre siffle pénalty. Asamoah Gyan, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, africain bien sûr, rate le pénalty, ça touche le poteau, il se prend la tête à deux bras et boum, séance de tir au but. Il va marquer en séance de tir au but, mais le Ghana sera éliminé de la Coupe du Monde 2010 qui se tient en Afrique du Sud. Catastrophe, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué. Et en plus, c'était la seule équipe africaine qui s'était qualifiée pour les huitièmes de finale, en dehors de la phase de groupe. Voilà. Et le numéro 1, ça m'amène au documentaire de Roberto Baggio qui est disponible sur Netflix. Très bon documentaire de nos amis italiens. Roberto Baggio qui était Ballon d'Or, qui était un des plus grands joueurs de l'histoire italienne. Un joueur charismatique que tout le monde aimait. Il était bouddhiste d'ailleurs, ça pas beaucoup de gens le savent, mais c'était un bouddhiste. Il était très connu aussi pour sa queue de cheval en arrière, his ponytail. Évidemment, c'est pas son penalty qui a causé la défaite parce qu'il y avait quelqu'un qui avait raté avant lui, mais il devait absolument marquer pour qu'ensuite le Brésilien tente sa chance et peut-être le gardien italien l'aurait arrêté, on ne sait jamais. Mais il a mis sa barre, il a mis son penalty en haut de la barre transversale. Le gardien n'a eu à faire absolument rien. Et dans le documentaire, on voit évidemment que c'était la première fois qu'il tirait un penalty en haut du cadre du but. Et c'était en finale de Coupe du Monde 1994 contre le Brésil. Dans une finale, d'ailleurs, ça se passait du côté des États-Unis en Californie, dans une finale qui était, c'est vraiment pas la plus belle des finales. Donc voilà. Évidemment, il y a des mentions spéciales. On peut passer au pénalty de Raoul raté contre la France à l'Euro 2000. On peut penser également, il y en a d'autres là. Il y a eu Riquelme, évidemment, pour amener Villarreal en finale de la Ligue des Champions. Ils n'auront jamais eu une occasion par la suite de le faire. Penalty raté contre Arsenal. On a Sergio Ramos, évidemment, qui a mis son penalty complètement en haut contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été à la finale. Mais fait étonnant pour Sergio Ramos, il y a un documentaire que j'ai vu sur lui. Il a dit à sa mère, après avoir raté ce penalty-là, que la prochaine fois qu'il y a une occasion de tirer un pénalty important, il va faire une panenka. Et il l'a fait contre le Portugal à l'Euro 2012, cette même année-là. Quand vous parlez de joueur charismatique, un leader, là, Sergio Ramos, c'est dans le top. Dans le top, dans le top, dans le top. Également, d'autres noms, Zico, on peut penser à Lionel Messi contre Chelsea, on peut penser à Arjen Robben contre Chelsea en finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, pardon, cette année où est-ce que Chelsea a finalement gagné sa seule Ligue des Champions. Non, c'est pas vrai. Sa première Ligue des Champions, parce qu'ils l'ont gagné également récemment. Voilà, donc c'est pas mal ça, mesdames et messieurs. Donc sur ce, après cette information incroyable que je viens de vous donner, le soccer c'est fou, mesdames et messieurs, on retourne en musique avec Amel Leoni, encore. Écoutez-moi ça et on revient tout de suite après à Soccer Love. Bonne écoute.
Assieds-toi, raconte-moi, mon ami. Il y a longtemps qu'on ne sait pas chanter nos vies. Prends un verre, verse-toi quelque chose. Et c'est là que tu me dis. J'ai tout lâché, ça sert à rien, c'est pas pour moi. C'est pas ma faute si tous les autres sont contre moi. Je vis l'enfer, il y a longtemps que je me sens comme ça. Mais toi dis-moi, comment ça va? Ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va. Il est cru, le bonheur, le succès. Je te montrerai tout ce que j'ai, mais t'es pas prêt. Je vis l'amour et c'est encore presque parfait. Avec toi, j'échange de sujet. Ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va. Ça va, ça va, moi ça va. Ça va, ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas.
Retour à Soccer Love. On vient d'entendre la chanson Ça va de Amé Laouni. Donc, on est toujours à Soccer Love. Vous savez ça avec vous, évidemment, pour encore une bonne quinzaine, vingtaine de minutes. Donc, on va vous parler de la Liga. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais un topo sur qu'est-ce qui se passe dans les grands championnats. top 5, incluant Portugal, top 6. Parce que vous le savez, je ne veux pas que cette émission soit une émission de statistiques, de eux sont premiers, deuxième et un, mais quand même, ça fait partie de l'information qu'on doit donner. Donc voilà, écoutez, la Liga Espagnola, je vais commencer par les meilleurs passeurs. D'habitude, je commence tout le temps par les classements. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a Oscar Trejo du Rayo Vallecano, qui sont 8e d'ailleurs, puis c'est le meilleur passeur avec 9. Karim Benzema, 7. Dani Parejo, 6. Et Nabil Fekir, 6 passes. Ce sont les meilleurs passeurs du championnat espagnol. Meilleur buteur, évidemment, Karim Benzema, 17 buts. Vinicius, 12. Juanmi, 12. Raúl de Tomás, 12. Juanmi joue à Betis. Raúl de Tomás, il joue à l'Espagnol. Iago Aspas, 11. José Lu, 10. Gérard Moreno, 8. Depay du Barcelone, FC Barcelone, 8. Gonzalo Guedes du FC Valencia, 8. Et Angel Correa de l'Atlético Madrid, 8. Évidemment, fait surprenant, je vous l'ai déjà dit, là, Karim Benzema n'a jamais terminé meilleur buteur du championnat espagnol. Le seul qui a terminé meilleur buteur du championnat espagnol pendant que Messi et Ronaldo jouaient en Liga, c'est Suarez, et c'est une fois. L'année dernière, Messi, malgré une saison ordinaire, ben, il y a eu le Ballon d'Or, là, mais on s'entend qu'en Liga, c'était vraiment pas fameux. En fait, non, c'est pas que c'était pas fameux, mais c'est que ça méritait pas le Ballon d'Or. Il a quand même terminé meilleur buteur du championnat espagnol. Faut dire aussi que Benzema n'a jamais tiré les pénaltys pour une saison complète, sauf depuis cette année. Avant, c'était Ronaldo ou Ramos, donc voilà. Au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, on a le Real Madrid, 22 matchs joués, 50 points. Le deuxième, 22 matchs joués, Séville, 46 points. Troisième, Betis, 22 matchs joués, 40 points. Troisième, Atlético Madrid, 21 matchs joués, 36 points. Cinquième, FC Barcelone, 21 matchs joués, 35 points. Et sixième, Real Sociedad, 21 matchs joués, 34 points. Villarreal est septième avec 22 matchs joués, 32 points. Donc évidemment, la première place et la deuxième, là, c'est quand même plus ou moins pas assuré, mais en fait, on peut dire que le Real Madrid et le FC Séville devraient terminer très probablement dans les 2-3 premiers. Ensuite, pour la 3e, 4e place, là, ça va se jouer entre Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Real Sociedad, FC Barcelone, Atlético Madrid et Real Betis. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a Levante qui est bon dernier avec 21 matchs joués, 11 points. Alaves, 22e, 22 matchs joués, 19e, donc avant-dernier avec 17 points. Et Cadiz, qui est une équipe du sud espagnol, 18e, 22 matchs joués, 18 points. Et juste en dehors de la zone de relégation, on a Mallorca. Hein? Oui, oui, il y a une équipe sur l'île de Majorque, évidemment. 21 matchs joués, 20 points. Et 16e, 22 matchs joués, 22 points pour Getafe. Voilà. Parce que vous savez, là, si on a des gens ici qui sont fans de hockey, football, basketball, de sports nord-américains, en Europe, quand tu joues au soccer, évidemment, si tu n'as pas une bonne saison et tu finis dans les 3 derniers dans certains championnats, ben tu es relégué et tu dois descendre à la division inférieure. Parce qu'à chaque année, il y a des équipes qui montent dans la deuxième division. De la deuxième vers la première. La meilleure attaque du championnat espagnol, c'est le Real Madrid, avec 47 buts marqués, 20 buts encaissés. La meilleure défense du championnat espagnol, c'est nul autre que Séville avec 16 buts encaissés. Évidemment, l'Athletic Bilbao a toujours une bonne défense, c'est les deuxièmes meilleurs avec 17 buts encaissés. Mais il ne marque pas beaucoup de 21 buts en 22 matchs. La pire défense du championnat espagnol, c'est nul autre que Levante, dernier avec 43 buts encaissés. Et la pire attaque, c'est nul autre que Alaves avec 16 buts marqués en 22 matchs. Ce qui est pas bon, mais ce qui est quand même pas totalement pathétique si on compare ça à d'autres championnats. Les matchs à venir, c'est-à-dire la semaine prochaine, parce que cette semaine, on a congé. Le 5 janvier, on a Mallorca qui reçoit Cadiz, on a Celta qui reçoit le Rayo Vallecano, on a Osasuna qui reçoit Séville, on a Valence qui reçoit la Real Sociedad, c'est un match important ça. On a Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid, on a le Real Betis qui reçoit Villarreal et on a le Real Madrid qui reçoit Granada. Et pour terminer, l'Athletic Club de Bilbao qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Maintenant, je vais vous donner... On va faire ça. Là. Je vais prendre le temps de trouver l'information. Je ne vous le cache pas. Ça m'intéresse de vous dire qu'est-ce qui se passe aussi dans la Ligue 2 espagnole parce qu'il y a une deuxième division espagnole. Les leaders en ce moment, le premier c'est Eibar et le deuxième c'est Almeria. Et 3, 4, 5, 6, Valladolid, Tenerife, Ponferradina... Ponferradina et Girona. Donc, en deuxième division, les deux premiers sont qualifiés automatiquement pour rejoindre la première division et le troisième à sixième doivent se battre pour la dernière place restante. Et la relégation, ben, on a Alcorcón qui ont 12 points en 24 matchs, 46 buts encaissés. En 24 matchs. Ce sont les derniers de la division espagnole. Voilà. Maintenant, écoutez, on va vous parler des matchs à venir cette fin de semaine. Et Dieu sait qu'il y en a. On a des matchs partout, à gauche et à droite. Les matchs à venir, c'est tout de suite à Soccer Love.